Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Moodstep. Nous allons encore parler de savoir-être au travail. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit vraiment étrange, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Donc pour certains, vous savez que je vis à Port-Louis, en Bretagne, en face de l'Orient. Et donc là, je viens de prendre le bateau et faire quelques minutes de marche pour être en plein dans la base des sous-marins de l'Orient. Donc c'est un endroit un peu apocalyptique, c'est étonnant parce que on ne sait pas si on est dans une ancienne civilisation perdue et en même temps c'est vivant. Donc nous allons chez Pegasus, qui est encore une grande énigme pour moi. Il se trouve qu'à Port-Louis où j'habite, j'ai croisé plusieurs fois des équipes de différentes sociétés qui venaient faire des commandos ici avec d'anciens marines. Et donc j'avais envie de les rencontrer, je les ai contactés et ils ont accepté gentiment de me recevoir. Donc on y va. On est au K3, j'espère que c'est là, pour pas que je sois en retard, je n'aime pas être en retard.
Bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes chez Pegasus, nous allons parler de force commando, plein de termes que je ne connais pas, je ne sais même pas comment je vais poser mes questions. Mais avant qu'on commence, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Je m'appelle Yves Peigné, je suis directeur associé de Pegasus Leadership. Traditionnellement, je peux dire que j'ai eu deux vies. J'ai eu une première vie passée dans la marine nationale, et précisément dans la marine nationale, essentiellement chez les commandos marines. Voilà, c'est 26 ans de ma première vie. Et à résoudre des problèmes, à trouver des solutions d'un type essentiellement militaire, mais plutôt vers le stratégique que vers le corps à corps, et qui m'a amené à voyager, à diriger des hommes, des opérations et des choses très prenantes, et qui ont naturellement conduit à une deuxième vie que j'ai commencé depuis 10 ans maintenant, en créant Pegasus Leadership à Orient. Et qui est, à travers cette première expérience, d'accompagner des cadres dirigeants, soit seuls, soit en équipe de direction, et essayer avec eux de voir comment les accompagner dans leur transformation actuelle, d'un point de vue de gouvernance, d'un point de vue de managérial, d'un point de vue de décision.
Voilà. Il faut peut-être qu'on situe un peu où on est. Oui, alors... Parce que c'est un endroit très spécial. En plus, là, on a la mer, l'océan qui s'illumine, la rade de l'Orient.
On a vu sur mer, même, on va même plus que ça. En fait, on a fenêtre sur mer. Oui, puisque on se parle d'un bunker de la Seconde Guerre mondiale qui est au cœur de la base des sous-marins de l'Orient.
Ouais, qui est énorme. C'est
un quart du mur de l'Atlantique, en fait. On va dire en tonnage ou en cubage de béton. C'est des énormes bunkers ouverts sur la mer qui est pour but d'accueillir des sous-marins, un sous-marin allemand d'abord, et puis pendant 50 ans après, sous-marin français. Voilà. Donc c'est effectivement toujours impressionnant, même pour ceux qui travaillent
Pour les stagiaires qui arrivent déjà, ça doit les mettre dans un état d'esprit très particulier.
Oui, c'est ce qui est recherché un peu, justement, c'est pas de les impressionner, mais de les dépayser pour... Parce que les formations sont généralement, les temps de présence sont assez courts, et on les optimise justement par ce côté un peu décalé, et ce côté...
C'est-à-dire c'est plusieurs jours quand même.
Oui, c'est trois jours, c'est deux, trois jours.
Bon, alors ça consiste en quoi? Parce que c'est un grand mystère.
Ça consiste à...
Je pense que vous avez plusieurs axes d'approche.
On a les axes que nous apportent leurs problématiques, en fait, puisque... Même si aujourd'hui, regardez les défis qui attendent, quelle que soit la culture professionnelle en question, parce qu'ici on a reçu des gens de l'industrie, de plusieurs types d'industries, mais aussi du luxe, en passant par la finance, les services, des associations comme Médecins Sans Frontières, etc., sont venus ici pour partager essentiellement l'expérience de l'équipe Pegasus. Et cette expérience, elle est basée sur une expertise liée au milieu des opérations spéciales, essentiellement maritimes, puisque le corpus des compétences de Pegasus repose sur une capacité à gérer des équipes, à gérer des hommes dans des environnements non conventionnels, très, avec des enjeux stratégiques et avec on va dire, un taux d'adversité parfois très, très fort. Et voilà, ça nécessite une manière de penser, une manière d'être même, qui est tout à fait transposable avec les pratiques du privé.
Je vais peut-être être un peu impertinente. Vous êtes allé en territoire en guerre,
Bien sûr,
donc vous
ouais.
êtes intervenu sur des territoires en guerre. De transposer donc des techniques militaires à l'entreprise, est-ce que l'entreprise est en guerre, quoi? Est-ce qu'on a besoin d'aller si loin?
En fait, on ne parle pas de technique de guerre militaire. On parle juste de cerveau humain, avec leurs biais cognitifs, avec leurs affects, avec leur besoin de décider rapidement, sous la pression de l'adversité, du temps, du froid, enfin, de l'urgence. Et ça, c'est évidemment, les militaires n'ont pas, enfin, que je connais en tout cas, n'ont pas un cerveau différent. Enfin, vous êtes aussi. Enfin, aussi spéciaux que nous, on est aussi normaux que vous. Non, non, c'est. Voilà, on ne change pas son cerveau
Non, c'était
quand on
plus
est
la
père de famille.
transposition de
Ben justement.
comment ça se fait que. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on apprend dans les commandos marines? Qu'est-ce que vous avez pris? Parce que vous n'avez pas tout pris des commandos marines en
Non.
même temps, prendre une arme, tout
Pas du
ça
tout,
ne sert
c'est pas
pas
le
dans
côté martial,
l'entreprise.
non, du
Non,
tout.
donc qu'est-ce que vous avez extrait des commandos marines et que
Une
vous
manière de réfléchir.
transmettez?
Une manière de réfléchir, une manière d'être
Qui
intelligent
consiste en
collectivement,
quoi? C'est-à-dire en quoi elle est différente?
qui consiste à être authentique, déjà authentique dans sa manière d'être, puisqu'il y a un côté désintéressé qui est à la base de l'engagement. Voilà, on va au bout, j'allais dire, de l'engagement. Quand on parle
Et
d'engagement,
pourtant, c'est très formaté. C'est-à-dire, vous dites authentique et en même temps, dans l'armée notamment, voilà, on a un uniforme, on est tous sur le même.
ça, c'est l'image que vous en avez.
Voilà. Mais justement, peut-être que c'est le moment de faire tomber mes a
Ah
priori
oui,
ou
parce
les
que
idées reçues que je peux avoir.
exactement.
Donc, vous, l'authenticité, c'est quelque chose que vous avez retiré de votre
Bien
expérience à
sûr,
l'armée,
ouais, tout à fait.
à la marine en tout cas.
Oui, l'authenticité qui sera la base de la confiance dont on a, qui est le socle en fait de ces unités dites un peu spéciales, mais qui sont aussi la confiance. C'est dans un comité de direction, dans un comité exécutif, c'est aussi la base c'est le socle en fait.
Comment on atteint ça? Comment on devient plus authentique
C'est une
et comment on touche à la confiance, quoi, parce
bonne
que
question. C'est une bonne question. Moi, je parle pas de la confiance sur les origines, sur les études, sur le CV, sur les compétences en fait. Ça, c'est déjà pas mal, hein. Déjà, confiance et se confier à son collègue. Moi, je suis expert de la supply chain et j'ai envie de faire confiance au contrôleur de gestion ou
À
directeur
l'acheteur.
ou à l'acheteur. Ça, c'est déjà c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal si on arrive à cette confiance. Maintenant, moi, je parle de la confiance où consiste à regarder ses vulnérabilités en fait, à regarder ses fragilités.
Les siennes et celles des
Bah, bien
autres ou
sûr, ouais, les
juste?
siennes, c'est-à-dire mettre l'ego un peu de côté pour dire bah là, je suis peut-être pas capable d'assumer la confiance que tu veux bien mettre en moi, quoi.
Mais comment vous faites pour ne pas passer du
C'est-à-dire
côté de la dévalorisation? Comment
Mais parce
vous
qu'on vise
connaissez.
le parler vrai, parce qu'on vise
Il faut le connaître vrai aussi, avec le parler vrai. C'est-à-dire, se connaître, c'est quand
Bien
même
sûr.
pas évident.
Mais j'ai pas
Comment
dit que
vous
c'était évident.
identifiez vos faiblesses ou vos points faibles?
Bon, c'est la vie qui nous les.
À, par
C'est la vie
l'expérience,
qui nous les amène, bien
donc
sûr.
par l'action?
Et par l'action, ouais, par l'action, puisque ce qui peut parfois constituer une différence entre un milieu culturel militaire, du coup, c'est la notion d'entraînement. Ce qui fait que quand vous êtes commando marine, vous sautez en parachute, vous plongez, vous faites des tas de choses, et vous êtes confronté au noir, vous êtes confronté au vide, enfin plein de choses, et vous découvrez évidemment des zones un peu plus fragiles en fait. Vous n'êtes jamais bon dans tous les domaines. Ça amène un peu d'humilité dans l'existence. Et puis quand on a ouvert son champ-là, ben on respecte naturellement celle des autres. Mais ça se fait pas tout seul, parce que les égos, on a aussi paradoxalement besoin d'un égo fort pour aller jusqu'au bout des objectifs. Mais il n'y a pas une opération qui rappelle que, ben voilà, que voilà, qu'on est des... que les hommes pleurent, que les hommes ont peur, que c'est pas évident, l'illusion, c'est justement d'oublier ça, quoi. C'est de penser qu'on peut laisser ses émotions, ses affects à la
là,
maison.
Là, c'est vrai que vous me surprenez, vraiment.
Ouais.
Parce que déjà, l'expérience que j'ai en entreprise, c'est que par exemple, pleurer est assez mal vu. Hein, et là, vous me dites que au sein de la marine, on peut pleurer. On peut afficher.
C'est pas qu'on peut pleurer, c'est qu'on peut. Voilà.
On pleure.
Qui n'a pas été choqué par des choses insoutenables, qui n'a pas craqué quand vous avez une opération qui dure 8 jours, vous avez 2-3 heures de sommeil, voilà, vous êtes à bout de nerfs, c'est normal. Hein, voilà, justement, peut-être que ce qui peut paraître, mais ce qui nous autorise quelque part à parler, c'est qu'on a quelques échantillons justement de cette humanité sur nous. On a l'intelligence, enfin, quand on est parti sur la confiance et sur la vulnérabilité, ben je pense qu'on en parle d'autant plus facilement que ça a été éprouvé, donc on ne cherche pas à masquer. On parle beaucoup d'ego et de masque social. C'est justement peut-être que les équipes de direction ou les managers en général ont besoin de regarder avant de se dire ou de se trouver efficace. C'est déjà, vous l'avez dit vous-même, de se connaître un peu, quoi. Mais là, on est au tout début, hein, on est au tout début du fonctionnement d'une équipe. Parce que se faire confiance, c'est censé amener le parler vrai. Voilà.
Mm.
Et ça, c'est autre chose.
Se dire les choses.
On est parti sur ce qui était transposable.
Ouais, ouais.
Hein, c'est transposable. Et quand, quel que soit le dessin de... L'objectif d'un collectif, trouver une intelligence collective sur un sujet, bon, très bien, mais dans la durée en tout cas, parce qu'effectivement, on peut être super bon sur un coup et l'équipe peut dissoudre après, mais ce n'est pas le cas. La plupart, même si les équipes de direction ne sont pas forcément très stables, mais moi je parle de la durée, de l'intelligence collective et de l'efficacité dans la durée.
Alors, je sais que le comment est peut-être pas évident, mais comment, si on est dans un collectif où la confiance n'est pas là et où on n'est pas dans l'authenticité, le parler vrai, comment on installe ça? Est-ce qu'il y a des manières d'y arriver? Pourquoi?
L'authenticité, justement, le chemin de l'authenticité.
Oui, mais faire ce choix-là, on a.
Ben après, le leadership, c'est pas un sport de masse, mais si le projet, quelle que soit l'entreprise, c'est-à-dire le degré de libération de l'entreprise, ou le degré de on parle d'entreprise positive, d'entreprise libérée, il n'empêche que y a toujours, c'est pas très vendeur, mais il y a toujours un triptyque il y a un responsable, pour pas dire un chef, il y a un leader, il y a un projet dans le désordre, et il y a une équipe. Voilà. Quel que soit... Enfin, nous, en tout cas, en 10 ans, en 26 plus 10 d'expérience, quelle que soit la culture professionnelle que vous avez devant vous, il y a bien un moment où c'est ce qui ressort. Quoi. Voilà.
Donc il faut un leader dans un groupe
pour que
les projets aboutissent.
Et justement, la valeur ajoutée du leader, c'est d'être capable de ramener de l'authenticité, de la confiance et du
partage. Voilà, la capacité de ramener. Comment on ramène de l'authenticité? En l'étant soi-même, c'est tout? En étant par l'exemple ou...
Mais c'est différent, justement, entre l'exemplarité et l'authenticité. Parce que, justement, parce que je sais que si on repose les questions, qu'est-ce qu'un bon manager, etc., si après on essaye d'être exemplaire dans le rôle du bon manager, moi je préfère être authentique dans le rôle du manager. Parce que là on parle d'humanité, et c'est d'abord d'explorer son ombre qui rend plus fort, en fait.
Alors, on revient à l'ombre et ça m'intéresse, donc à nos points faibles, on les identifie. Vous, dans votre état d'esprit, la façon dont vous faites les choses, qu'est-ce que vous faites de ces points forts, de ces points faibles, pardon, qui peuvent être des points forts quand on les connaît? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous travaillez dessus ou juste vous les connaissez? Alors, donc vous n'allez pas sur les terrains où vous avez vos points faibles?
Là, ou
de l'individu, là. J'étais sur l'individu. Mais pourquoi pas sur l'équipe? Parce que je suis...
C'est deux choses assez différentes.
Eh ben, faisons les deux. Je suis gourmande.
Dans ces cas-là, la connaissance de soi, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga de toute stratégie d'adaptation. C'est-à-dire face à l'adversité, face à la complexité, face à l'incertitude, que vous soyez, jeune collaborateur ou vieux...
Vieux briscard.
Je pense que pour moi, la base, c'est de comprendre que la connaissance de soi ou l'intelligence de soi, c'est quelque chose c'est une quête, je pense, pas infinie, mais qui s'arrête avec la mort. Et c'est ce qui vous donne...
Et encore, on ne sait pas ce qui se passe après la mort.
Et encore, oui, mais ça, c'est pas de mon domaine. Mais voilà, ouais. Le point cardinal de référence pour moi de toute stratégie d'adaptation, et puis c'est Gide qui disait que l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. C'est d'être juste, de s'ajuster aux événements. Et ça passera d'abord par la connaissance de soi. Et moi, sur un de mes premiers pachas, parce que c'est comme ça qu'on appelle les leaders dans la marine.
Ah bon, c'est vrai,
on avait... Ouais, c'est le pacha, c'est le commandant. Moi, je suis tombé sur un très très bon tout jeune, autour de 20 ans, sur un pacha qui m'avait rapidement débriefé après une opération qui avait été un peu difficile pour moi. Il m'a dit, deux choses, si tu as la prétention de donner des coups, il faut que tu sois capable d'en recevoir. Et puis après, il n'y a pas 36 voix pour être authentique, pour être en accord avec soi-même. C'est être capable tous les matins en se levant de répondre à quatre questions de manière libre, c'est-à-dire sans réfléchir, sans pression. La première, c'est qui suis-je? La deuxième, c'est dans quel monde? La troisième, c'est pourquoi faire? Et la quatrième, c'est avec qui?
Mais ça me paraît extrêmement vaste comme question. Qui suis-je? Ouais. Dans quel monde? Dans quel monde?
Ben voilà,
la difficulté... Et vous, ces quatre questions, elles vous ont éclairé en y réfléchissant?
Pas tous les matins, franchement, mais souvent quand je sens que la fatigue peut revenir, que le stress peut arriver, ça reste un guide.
Ouais, donc, on a parlé de la confiance. Qu'est-ce qui est... Donc, on était parti sur qu'est-ce qui est transposable.
Qu'est-ce qui est transposable, bien sûr.
Des commandos marines au manager.
Comment on peut être intelligent collectivement. Intelligence collective. Voilà. Ce qui est transposable, tout à fait, parce que quelle que soit l'organisation, on demande à toutes les organisations d'être intelligentes au sens de Gide, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de m'ajuster et de m'adapter à les situations. Et oui, pour moi, le socle, c'est la confiance. C'est la confiance dans le projet, dans le leader, dans l'équipe, voilà, notre triptyque. Ensuite, sauf si vous me dites le contraire, c'est transposable. Alors, pas facilement, puisque ça demande de la gouvernance, ça demande de l'ouverture d'esprit, ça demande de la culture générale, ça demande de la volonté, ça demande tout un tas de choses qui sont peut-être des denrées rares aujourd'hui, mais qui sont constitutives d'un vrai projet de société, déjà, et après, en déclinaison, d'un vrai projet d'entreprise. Des vrais projets d'équipe. Et après, la confiance, pourquoi? Parce que, justement, l'association du leader, du projet et de l'équipe doit passer par le parler vrai. Autrement dit, d'éviter le non-dit. Alors, si vous me demandez une recette, nous, on a l'habitude de débriefer ici à Pegasus nos projets importants. Quand on a des projets importants pour des clients importants ou des projets particuliers en jeu, comme on le faisait pour nos opérations, on a une phase de cette méthode de travail qui s'appelle le retour d'expérience, le rétax. Et il y a une forme pour que ce rétax soit... soit vraiment effectif, soit un exercice de progression. Eh bien, un des rituels, c'est de mettre une petite pancarte. Enfin, il y en a deux, mais il y en a une. C'est dessus, c'est écrit Nameless, Rankless. Alors, c'est pas de l'anglais pour faire les mains, c'est parce que les commandos marines sont issus d'une formation anglaise des années 40. Hein.
Vous êtes vantard quand même. Hein. Bah, parler en anglais comme ça. Voilà,
ça veut dire
nous.
Pas de nom, pas de grade. Et pas de nom, pas de grade, justement pour une institution qui porte des galons sur les épaules, et parfois oui. Une bande ici qu'on appelle patronymique. Et ben, c'est de la laisser à la porte. C'est de les laisser à la porte, en fait, pour que. Ceux qui s'expriment, c'est les gens concernés par ce qui s'est passé. Et on compare le plan d'action prévu à ce qui s'est passé.
Donc ça, c'est une de vos choses mises
voilà,
en place.
Voilà, un exemple pour dire, ouais, c'est pas du blabla. Ça demande une discipline d'exécution et d'une méthode. Alors, c'est pas sexy, mais une méthode de travail. Une méthode de travail que nous, on transforme en culture partagée, en fait. C'est qu'on traite les opérations de cette manière-là.
D'accord. À quoi ça ressemble un stage Pegasus ? Parce que comme vous parlez de beaucoup d'actions, j'imagine que vous n'êtes pas dans une petite
c'est
salle.
C'est protéiforme, puisque admettons que vous avez le directeur général d'une boîte qui vient de transformer, enfin qui vient d'être recruté, qui transforme un peu son équipe et qui doit voilà, présenter un nouveau produit dans le trimestre qui vient. Donc... il s'adresse à nous pour voir comment est-ce qu'on peut accélérer la constitution de cette équipe et de la rendre plus agile et plus à même de développer de l'intelligence collective dans la durée. Voilà.
Donc, comment vous faites ça ?
Eh bien, en étudiant sa demande, d'abord, comme toutes les voilà, comme tout début d'analyse correctement fait, quand on regarde si la demande et le besoin ne sont pas toujours évident. Et puis, on a plusieurs solutions. On a une solution, des solutions courtes, des solutions moyennes et des solutions plus longues qui peuvent nous amener à approfondir l'analyse chez eux, voilà, avec des interviews, avec une observation sur place. Ça passe souvent par un séminaire à Lorient. Et ça nécessite... mais que les gens comprennent qu'ils ne sont pas au Novotel du coin, j'ai rien contre le Novotel, mais à l'hôtel du coin pour avoir un consultant avec son costard et sa cravate qui viendra discuter devant eux. Donc on profite de ce lieu-là qu'on a décrit au départ, une base de sous-marins qui représente un côté austère, un côté solide à la fois, un côté en tout cas intrigant. Et ça
permet
surtout, justement, vous savez, on revient sur la notion de pas de grade, pas de nom. Ben là, quand il neige à Lorient, vous êtes copain avec tout le monde pratiquement dans la rue, parce que tout le monde est tellement dépaysé que voilà, vous aidez les gens, vous souriez, c'est une autre façon d'être dépaysé. On voit bien qu'en mer, à la montagne, bien souvent, on oublie qu'on est notaire, boucher, toubib, médecin, enfin peu importe. C'est le dépaysement qui fait ça.
Donc est-ce que c'est très orienté action, ces stages ?
Alors ce qui oriente action, oui, on croit vraiment nous à la vérité du terrain. C'est-à-dire que le principe de la plupart de nos programmes, c'est une mise en action. On parlait de l'intelligence collective très bien, maintenant ils vont la vivre. C'est-à-dire que le fil rouge, c'est bien souvent un projet qui n'est pas du tout militaire. Il n'y a pas de peinture de guerre ni de bandana camouflée dans cette histoire. Hein. C'est juste utiliser son cerveau le mieux possible. Et puis résoudre une situation liée à l'économie locale. Hein. On parle de traitement des boues, on parle de développement de l'aquaculture, on parle de promotion immobilière dans le coin, etc. Et donc on leur soumet un dossier, finalement. On a un client qui a un certain nombre de besoins. Alors, effectivement, on est peut-être dans le domaine de l'intelligence économique, parce qu'il y a un côté discret qui doit... qui constitue un des critères. Et puis... donc l'équipe qu'on reçoit, eh bien, prépare en toute autonomie, j'y reviendrai probablement plus tard, mais en toute autonomie prépare une réponse et puis la met à exécution. Et ça dure sur 5-6 heures en fonction des thèmes. Et ils réalisent aussi en toute autonomie. mais sur le terrain, hein, c'est-à-dire on a une zone qui va de Groix à Hennebon, voilà, une zone d'une dizaine de kilomètres carrés dans lequel...
Groix est une île, hein, donc vous montez sur des bateaux
Oui, oui, il y a des bateaux qui sont... Alors, ce sont pour nous des moyens pédagogiques, des moyens qui demanderont ben, effectivement de certaines adaptations, puisqu'on leur donne, si vous voulez, le mot autonomie, ça veut dire qu'on leur donne les compétences techniques qu'ils n'ont pas forcément à l'entrée, savoir se repérer en mer, faire des caps, trouver une direction... Et puis, voilà, notre encadrement assure la sécurité et le pilotage du bateau. Mais sinon, les navigateurs, c'est eux, quoi. Ils sont...
Avec quoi vous pensez qu'ils repartent, les gens qui font ces stages? Ou avec quoi vous voudriez qu'ils repartent
On voudrait qu'ils repartent avec la conviction que ce qu'on leur demande en tant que cadre dirigeant, c'est d'être capable d'entretenir un discernement le plus clair, le plus haut possible, le plus longtemps possible. Et que ça nécessite plusieurs choses. On revient sur nos basiques. C'est d'entretenir et d'entretenir autour d'eux un socle de confiance suffisant pour parler vrai, pour s'engager, pour être responsable et puis pour être focus sur les objectifs finalement, quoi.
Parler vrai. Je me demande quels sont tous ces freins qu'on a à parler vrai, justement. À dire les choses telles que on les ressent ou on les pense.
C'est la peur.
Ouais, mais la peur de quoi?
Bah, la peur d'être jugé.
D'être rejeté,
d'être ostracisé, bien sûr. La peur de la solitude.
Ce podcast est trop court. Je n'arriverai pas à vous extorquer la méthode en entière pour ouvrir une boutique juste à côté. Mais
si, parce qu'il suffit juste de réfléchir de trois instants à ce que c'est qu'une boucle de décision.
C'est quoi une boucle de décision?
Bah, c'est comment dans les milliers de kilomètres neuronaux et sanguins de notre cerveau, il y a des invariants pour décider. C'est-à-dire que pas dans la partie réflexe, justement, mais dans la partie réflexion, analyse, on va essayer de comprendre d'abord. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est par l'analyse, et puis notre cerveau nous piège en permanence, hein, c'est clair. Il y a des tas de biais cognitifs qui sont là pour nous le rappeler. Et si on n'y prend pas attention, ben on se fourvoie dans l'analyse, voilà. Et on ne comprend pas bien ce qui se passe, en fait. Voilà. Et c'est que la première étape d'un processus de décision, parce qu'après, il faut imaginer les solutions qu'on peut opposer justement à l'analyse de ce...
Parce que je crois savoir que vous travaillez beaucoup, beaucoup aussi sur l'anticipation. C'est-à-dire que quand on va sur des opérations militaires, il faut anticiper tous les cas de figure et pouvoir répondre très très rapidement, puisque la vie d'hommes sont...
Oui, mais les enjeux, rien que les enjeux, quand vous libérez effectivement des otages ou que vous allez arrêter un facilitateur ou...
Et vous ne travaillez pas du tout sur le stress, parce que c'est quelque chose que vous avez dû rencontrer beaucoup.
Donc on ne parle pas vraiment on ne parle pas de stress. Si, on parle de stress, on essaye d'éviter les stress post-traumatiques. Déjà, ça c'est important. Et donc on essaye d'aguerrir les gens, plus que de les endurcir, en fait. Voilà. Et ça fait partie pour nous des stratégies d'adaptation, des bonnes stratégies d'adaptation. On revient toujours à la connaissance de soi qui est hyper importante.
D'accord. On est arrivé au bout du temps qu'on avait pour...
D'accord.
Vous voyez, ça va vite, hein.
Ah oui, je suis là.
Tant mieux pour moi. Donc, il y a un questionnaire qui est commun à toutes les interviews. Et si vous êtes prêts, je commence avec la première question. Donc, c'est... est-ce qu'il y a eu un échec personnel ou professionnel dans votre vie qui vous a particulièrement fait avancer, ou vous avez appris quelque chose d'important pour vous?
Pas appris, mais confirmé.
C'est pas mal déjà.
Que rien n'est jamais acquis. Cette année, début d'année, j'ai... en fait, on retourne chez nos clients un mois ou deux mois après la prestation à Lorient, comme c'est la plupart du temps. Et c'est une grosse entreprise. Et j'étais persuadé que ça s'était très bien passé. Et en fait, j'étais accueilli froidement parce que j'étais tellement persuadé que, bah, qu'ils étaient tous contents, que les témoignages qu'on avait eus étaient effectivement assez dithyrambiques, bah, sauf celui du patron, pour des raisons qui lui étaient personnelles d'ailleurs. Moi, j'avais pas préparé ce retour plus que ça, parce que j'étais tellement persuadé que ça s'était super bien passé. Et ben là, je me suis dit, ben voilà, j'ai pas la facilité, quoi. Ça va être facile puisqu'ils sont ravis. Or, si j'avais été un peu plus attentif, notamment au départ, j'aurais vu qu'il y avait quelque chose qui avait coincé.
Donc, qu'est-ce que vous en tirez comme leçon ?
Ben, j'en tire que, que rien n'est jamais acquis, en fait, et que si on décide de suivre une méthode de travail, il faut vraiment se l'appliquer en permanence et pas penser que non, ben là, j'en ai pas besoin, en fait. J'aurais mieux préparé mon entretien, j'aurais peut-être passé quelques coups de téléphone à son assistante pour préparer, quoi. Mais là, j'arrivais en terrain conquis, or... C'était pas le cas.
Deuxième question. Quelle technique ou outil vous a fait plus avancer personnellement, professionnellement ? Ou en tout cas vous...
Écoutez, je me suis occupé pendant un temps, je parle du temps de la marine, les dernières années, il y avait ce qu'on appelait des techniques d'optimisation du potentiel professionnel. C'est des sortes de préparation mentale, si vous voulez, pour éviter les stress post-traumatiques et pour être plus à même de... Et ce qui a suivi... Alors, en quittant la marine, j'ai fait de la sophrologie, j'ai toujours gardé cette... Et il y a 4 ans, je me suis inscrit à un cycle ou une formation de mindfulness, de MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Et ça a transformé ma vie, puisque c'était une pièce du puzzle qui me manquait, je pense, pour...
C'est un raz-de-marée, la méditation.
Oui. Enfin, c'est un raz-de-marée.
En Occident, c'est assez impressionant le nombre de personnes qui me disent ça. La méditation a changé ma vie. C'est les mots.
Mais c'est ça, ouais. Ouais, c'est vraiment ça.
Mais qu'est-ce que vous avez découvert ?
C'est une pièce de puzzle que j'ai mis dans mon image et qui a fait apparaître plein de choses que je suis subodoré un peu.
Ouais.
Et en fait, c'est sur la simplicité. Enfin, c'est à la fois ce qui est simple et pas forcément facile, mais c'est hyper simple. Ça rappelle que seul l'entraînement, seule la persévérance finissent par payer. Et aujourd'hui, c'est une leçon formidable, parce qu'on est en train de zapper en permanence, on a toujours une méthode qu'il faut absolument faire, etc. Et là, je veux dire, ça fait des milliers d'années que sous une forme ou sous une autre... gens pratiquent et pas besoin d'explication. Voilà, le seul truc maintenant, c'est pratiquer.
Il y a l'action qui revient.
c'est quelque chose de très concret.
Quelle est selon vous la qualité primordiale à développer pour être un bon manager ?
L'authenticité.
Ah oui, forcément. Alors là, on n'a plus rien à dire.
Se référer à le début de la conversation.
CF, revenez en arrière. Et un livre que vous conseilleriez à la lecture ?
Un des premiers livres qui m'a un peu mis sur le chemin de la réflexion sur soi, c'est ma mère qui me l'avait transmis, et c'est un livre de Guy Corneau.
Qui est mort il n'y a pas longtemps.
Qui est mort il n'y a pas longtemps, qui s'appelle La guérison du cœur.
Vraiment, vous m'étonnez à chaque fois.
Oui.
La guérison du cœur. D'accord. Eh bien, ce sera en lien dans l'article, parce que...
Ouais, très bien, c'est un très très beau livre.
Et on va finir avec une citation.
Mais peut-être celle qui est peut-être la plus audible, en fait, et en cohérence avec ce qu'on s'est dit, c'est... On l'attribue, entre autres, à Marc Aurèle, mais il y en a sûrement... C'est peut-être pas la seule à l'avoir relayé. C'est... Que me soit donné le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer, La force de changer ce qui peut l'être et la sagesse de discerner l'un de l'autre.
Mmh. Sublime.
Bah, utile.
Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir ? Parce qu'en fait, je finis mes interviews, j'ai une baguette magique et j'ai des pouvoirs magiques qui sont très puissants, attention. Hein. Ah. Alors, donc, tout est possible. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ?
Eh bien, que les gens qui passent par chez nous puissent vraiment... Si vous pouviez, avec votre baguette magique, amplifier l'effet de nos messages qui n'ont pour but d'unir des hommes, je dis des hommes et des gens. Hein,
oui, bien sûr, avec un grand H.
Voilà. Mais que leur intelligence dépasse l'efficacité du business. Quoi. C'est-à-dire que ça... Que leur discernement, justement, aille jusqu'à cette planète qu'on a empruntée à nos générations futures.
Qu'est-ce que, alors, pour moi, votre phrase, elle ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, il faut que ça dépasse, que ça aille jusqu'où ? C'est quoi, ça ? Mais c'est quoi ce « où » ? Il y a quoi dans ce « où » ?
C'est « où », c'est de, que la conscience qu'on peut élargir et dont on a la prétention d'élargir ici ne s'arrête pas aux objectifs du business, mais bien... toucher les leaders ou les managers qu'on reçoit ici pour que ça devienne vraiment leur responsabilité, devienne une mission qui aille au-delà du business.
Donc ça veut dire
relier les hommes
parce qu'ils pourraient le ramener dans leur famille, dans leur façon d'être, mais ils pourraient aussi le ramener dans un but sociétal. Et c'est ça que vous entendez ?
C'est ça, voilà, c'est d'accord. Ça. Ouais, exactement, c'est ça, parce que quand on parle d'authenticité, de parler, enfin de confiance, de parler vrai, d'engagement. Ça sonne très bien, efficacité professionnelle, mais c'est d'abord de trouver des bonnes solutions pour que, voilà, pour qu'on prenne conscience que notre planète n'est pas inépuisable, que voilà, que cette conscience sociétale est, voilà.
J'ai envie de dire qu'on vit dans un monde en paix. Vous étiez dans la marine, alors c'est un peu bizarre.
Enfin, tous les Français qui sont nés dans cette deuxième partie du XXe siècle. Leur but, c'est de préserver la paix. Hein. Faut pas... Bien sûr, même s'ils le savent plus ou moins, mais c'est le projet de société français. Hein.
Donc, bien sûr.
Ceux qui sont là pour guerroyer, ils sont plantés. Ils seront jamais heureux dans la marine, dans l'armée d'aujourd'hui. C'est pas... Faut pas se méprendre. Mais il y en a. Hein.
Et nous, on se retrouve. La semaine prochaine, soyez au rendez-vous, hein, je vérifierai, je ferai l'appel pour une nouvelle interview. En attendant, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires super sympas sur la chaîne iTunes du podcast. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite une merveilleuse semaine.